À l'océan?
I hope for your help to explore and protect the wild ocean in ways that will restore the health.
Les destructeurs de l'océan peuvent commencer à trembler. La puissance citoyenne est en chemin.
Health to the ocean means health for us.
Nous sommes la détermination, nous sommes le nombre et nous sommes inépuisables. Aux amoureux de l'océan et aux défenseurs du climat, de la justice et d'un vivre ensemble joyeux et réinventé. Le combat ne fait que commencer. La
mer. Bienvenue dans À l'océan, l'émission qui donne des nouvelles de nos océans, nos abysses, nos mers, nos littoraux, bref, de nos milieux marins et des merveilleuses créatures qui s'y trouvent, mais aussi des menaces et des destructions qui pèsent sur ces écosystèmes. Pas de panique, je vous donne des petits tips pour lutter contre. Je m'appelle Clotilde et je suis passionnée de biologie marine. Je vous invite à mettre vos palmes, votre tuba et plongeons ensemble à la découverte de notre planète bleue. Avec les températures d'hiver qui s'installent, il me semble à propos de vous parler de nos pôles, ces régions les plus froides de notre planète. Bien qu'au premier abord inhospitalières, ces déserts glacés, tout en nuances de blanc, regorgent de vie et notamment de vie sous-marine. Alors pour commencer, voici un petit jeu des 7 différences, enfin des 5 différences plutôt, pour différencier le nord du sud. C'est parti. L'un est composé de banquises, l'autre est un continent gelé. Alors, qui est qui ? Le pôle nord est fait de banquises, contrairement au pôle sud qui possède des terres et même d'anciens volcans. On enchaîne. Seconde différence. Son nom signifie ours en grec ancien en raison des constellations de la Grande et Petite Ours. Oui, c'est le pôle nord, l'Arctique, du grec Arcos. Du coup, en opposition à l'Arctique, le pôle sud a été nommé anti-Arctique, soit l'Antarctique. Ensuite, il peut atteindre des températures allant de moins 90 degrés et 0 degrés en hiver. Et non, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas au pôle nord qui fait le plus froid, mais bien au pôle sud, dans l'Antarctique. Au contraire, au pôle nord, la température est comprise entre moins 50 et 20 degrés l'été. Quatrième différence. Il est habité par des populations humaines. Alors, l'Arctique ou l'Antarctique ? C'est le pôle Nord, l'Arctique, qui est habité et seulement lui. Cela s'explique à cause de sa proximité avec les autres continents déjà peuplés. En effet, le cercle polaire de l'Arctique comprend une partie du Canada, des États-Unis avec l'Alaska, de la Russie, des Pays-Bas avec le Groenland, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de l'Islande. Voilà pourquoi vous entendrez au cours de cet épisode plusieurs extraits de chants des peuples autochtones du cercle polaire. Continuons. Il est protégé par un traité datant de 1959 stipulant qu'il n'appartient à personne et qu'il est une zone dédiée à la science et à la paix. De ce fait, les exploitations minières et gazières y sont interdites. C'est le cas du pôle sud, l'Antarctique. Il n'y a malheureusement aucun traité concernant le pôle nord. Les lois maritimes s'y appliquent, chaque pays possédant plusieurs kilomètres carrés d'océan autour de ses frontières. Et enfin, il joue le rôle du thermostat du climat. C'est le cas des deux pôles, bien sûr, c'était un petit piège. Ils permettent un ralentissement du réchauffement de la planète et ont un rôle dans les courants marins qui influencent le climat. Mais ça, nous allons le voir tout à l'heure. Il aurait été dommage de résumer la biologie marine et les spécificités de ces paradis blancs en l'espace de juste 15 minutes. J'ai donc décidé de faire un épisode pour chacun. Aujourd'hui, on commence avec l'Arctique, donc le pôle Nord, si vous avez bien suivi. De manière schématique, l'Arctique se compose de tout ce qui se trouve autour du pôle Nord de la Terre et qui est compris dans et autour du cercle polaire arctique. Il contient donc en partie des territoires de certains pays que j'ai cités en introduction. Il est surtout composé de l'océan Arctique, c'est celui-ci qui nous intéresse. C'est le seul océan polaire de notre planète. D'une surface d'environ 14 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la superficie de la mer Méditerranée, il est complètement recouvert de banquises. L'étendue de celle-ci dépend de la saison, plus grande en hiver qu'en été. Même si désormais, le réchauffement climatique a un effet dévastateur sur la banquise. Il s'en forme de moins en moins chaque année. Sur ces 50 dernières années, l'Arctique s'est réchauffé deux fois plus vite que la moyenne terrestre. Mais qu'est-ce que la banquise ? C'est une couche de glace qui flotte sur l'eau. Elle ne se trouve pas sur les continents. Elle se forme lorsque la température de l'eau atteint moins 1,8 degré. J'aimerais pas m'y baigner. D'abord, ce sont de petits cristaux de glace qui se forment dans ce qu'on appelle la soupe glacée. Avec l'effet du vent, ces derniers se rejoignent et s'accumulent pour former des frasiles. Ensuite, quand les frasiles atteignent les 3 mètres de diamètre, cela devient des crêpes glacées, où les cristaux de glace continuent à s'accumuler. Ainsi, une jeune glace de banquise atteint entre les 10 à 30 cm d'épaisseur. Puis cela peut aller jusqu'à 3 mètres et plus pour les glaces de banquise pluriannuelles. La banquise est formée d'eau douce, bien qu'elle soit issue de l'eau salée de l'océan Arctique. Lors de sa formation, elle rejette le sel sous forme de saumure. Ainsi, l'eau sous la banquise est beaucoup plus salée et elle est donc plus dense, plus lourde. Celle-ci coule au fond de l'océan, poussant les masses d'eau froide déjà présentes, entraînant leur déplacement. Cela crée les courants marins d'eau froide. La formation de la banquise est donc une véritable pompe à courant marin. Encore une fois, s'il y a moins de banquise, il y aura moins de courants marins, voire quasiment plus. Ce qui aura des conséquences catastrophiques sur notre climat. Je vous renvoie à l'épisode 2 d'Al'océan, où je parle de la relation entre les courants marins et nos saisons. La surface immergée de la banquise arctique n'est pas plate et lisse comme l'est la surface où marchent les ours polaires et où se prélassent les phoques. Non, au contraire, elle est granuleuse, rugueuse, avec plein de petites cavernes. Lors de sa formation, elle rejette le sel contenu dans la saumure sous forme de bulles qui donnent cette rugosité à la surface immergée de la banquise. Cette rugosité est le paradis pour plein de micro-organismes, de bactéries qui font la photosynthèse, d'algues et même de petits poissons qui s'y accrochent, s'y abritent et prolifèrent sous la glace. C'est un véritable fond marin inversé. Et quand l'été arrive et que ces parties de la banquise fondent, cela libère alors toutes ces algues et micro-organismes, provoquant une explosion du phytoplancton et rendant les eaux arctiques les plus riches du monde. La profusion de crustacés et de poissons, puis la fonte des glaces pendant l'été libérant des voies d'eau, attire de nombreux cétacés. Et en voici quelques-uns. Tout d'abord, le narwal. Souvent appelé licorne des mers à cause de la longue défense qu'il possède, le narwal est dans la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sa longue défense, présente uniquement chez les mâles, est en fait une dent. Oui, oui, elle peut atteindre les 2,7 mètres et lui sert à se défendre, à faire des combats entre mâles, mais aussi comme organe sensoriel. Cette dent est relié au cerveau et peut capter la salinité de l'eau, la température, les variations de pression et bien sûr les hormones femelles. Le narwal peut parcourir plus de 2 km sous la banquise sans respirer. Son plat favori est le poisson, le flétan du Groenland. Or celui-ci est victime de la pêche industrielle, réduisant les stocks disponibles pour l'alimentation des populations de narwal. Un autre cétacé spécifique de l'Arctique, c'est la baleine boréale. C'est l'une des 3 espèces de baleines endémiques de l'Arctique et qui y vit toute l'année. Elle possède une tête immense qui représente un tiers de son poids et qui lui permet notamment de briser la glace afin de se faire un trou pour respirer. Elle peut fracasser jusqu'à 20 cm d'épaisseur de glace. Elle se déplace en petits groupes et nage de manière coordonnée, en se touchant, en se frottant constamment les unes aux autres. La baleine boréale est le mammifère qui a le record de longévité sur Terre. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans. cette longévité record attire les scientifiques. Plusieurs études d'analyse génétique du génome des baleines boréales ont mis en évidence des particularités permettant de lutter contre la dégénérescence de l'ADN et donc de se préserver des maladies dégénératives, notamment du cancer. Enfin, l'habitant de l'Arctique qui bat tous les records de longévité, c'est le requin du Groenland. Ce requin vit à plus de 2000 mètres de fond dans des eaux glacées et peut vivre jusqu'à 400 ans. On sait très peu de choses sur ce requin qui est difficile à observer sous les eaux glacées de l'Arctique. On ne sait pas, par exemple, son mode de reproduction, ni même son mode de chasse. On estime qu'il est en grande partie charognard, car il est le requin le plus lent du monde. Il nage à une vitesse d'un kilomètre par heure et ne grandit que de 1 à 5 cm par an. Mais il peut quand même atteindre les 7 mètres de long. Un parasite s'attaque à ses yeux, le rendant quasiment aveugle. Ce qui n'est pas gênant pour lui, car dans l'environnement où il évolue, il n'y a pas beaucoup de lumière. Encore aujourd'hui, certains pays le chassent pour son huile qui contient de la vitamine A. Comme tous les requins, son plus gros prédateur, c'est l'homme. En octobre 2025, un navire commercial chinois a réussi à rejoindre l'Europe en 20 jours au lieu de 40, en passant par l'Arctique, inaugurant ainsi une nouvelle route de la soie polaire ou encore l'Arctic Express. Cette prouesse maritime a été rendue possible à cause de la fonte de la banquise et la réduction de celle-ci, libérant des voies d'eau libres, autrefois gelées toute l'année. Ce nouveau corridor mondial représente de forts enjeux économiques, politiques et militaires dans cette zone frontalière de nombreux pays et qui n'est pas protégée par des traités internationaux. C'est le réchauffement climatique produit par les activités humaines et leur industrie qui provoque cette fonte des glaces et empêche la banquise de se reformer chaque année. L'utilisation de ces nouvelles voies maritimes va amplifier les échanges commerciaux, le trafic maritime et donc la production industrielle et l'utilisation d'énergies fossiles accentuant le réchauffement climatique. Sans compter sur les impacts de la pollution sonore de ce trafic sur l'écosystème qui était jusque-là préservé. Pour cela, je vous renvoie sur l'épisode précédent d'À l'océan sur le monde du silence, disponible en podcast.
We will drill, baby, drill.
Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Donald Trump. En janvier dernier, il présentait la politique énergétique de sa présidence. L'objectif est de forer, fort baby, fort. Donc de trouver du pétrole et d'utiliser cette énergie fossile climatocide. Ainsi, le gouvernement américain, aussi en octobre dernier, a approuvé des plans de forage pétrolier et gazier dans le refuge faunistique de l'Arctique en Alaska, soit la plus grande réserve naturelle des États-Unis. Alors qu'en 2013, déjà Greenpeace avait obtenu l'arrêt des projets de forage de Shell en Arctique, nous voilà repartis à zéro. En 2025, l'objectif est de développer le potentiel d'exploitation de l'Alaska dans l'un des plus grands refuges d'oiseaux migrateurs au détriment des populations autochtones et de toute la faune et la flore qui dépendent de cet écosystème. Je vous invite à soutenir Greenpeace pour obtenir de belles victoires afin de maintenir nos conditions de vie sur Terre. Voilà, c'était le premier épisode de cette série des pôles d'À l'océan. Aujourd'hui, c'était l'Arctique, le pôle Nord, donc dans le prochain épisode, ce sera, vous l'avez deviné, le pôle Sud, l'Antarctique. Lors de cet épisode, vous avez pu écouter des chants traditionnels Sami et Inuit, deux des peuples autochtones qui vivent dans l'Arctique. Pour continuer sur cette lancée, je vous laisse avec le groupe autochtone de Sibérie, Otiken, et leur chanson Alaska, qui mélange des instruments de musique folklorique avec de la pop moderne et y incorpore des langues traditionnelles. Je vous fais des bisous. Des bisous glacés et salés, bien sûr.
Spider-Man, Alaska, Jack.